Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Comment apprendre à votre enfant à faire du vélo sans les petits trous?
Chute terrible, il y a quelques instants sur les routes du Tour du Pays Basque, à 35 km de l'arrivée.
La première clé, en fait, c'est que ça doit venir de lui-même. Faut qu'il ait envie de faire du vélo sans les pieds.
Jonas Vingegaard est au sol, Primoz Roglic est au sol, énormément de coureurs qui sont partis à la faute.
Très clairement, il y a une augmentation de la vitesse qui est exponentielle ces toutes dernières années. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
La deuxième clé de réussite, ça va être de commencer dans l'herbe. Tout simplement parce que il va tomber et il tombera dans l'herbe. Il se fera moins mal que sur le goudron.
Ah, bah chute. Oh, Romain Kobo, il était derrière. Lui aussi a volé.
Les coureurs en position 4-5, ils ont commencé à glisser. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
La troisième clé, ça va être justement d'être dans l'optique qu'il va tomber.
C'est terrible. Un carnage. Tout simplement,
on ne peut pas continuer comme ça. C'est plus du vélo, là. Donc, il faut qu'on change. Qu'on soit capable de dire ça ne va plus. Mais il faut qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas, un jour, on va avoir des morts.
Je suis tombé.
C'était il y a 8 mois, lors du Tour du Pays Basque. Le cyclisme avait été secoué par une succession de chutes extrêmement graves. Marc Madiot, dans ce studio, vous l'avez entendu, avait appelé à une véritable prise de conscience. Les coureurs vont trop vite, les vélos sont trop performants, les directeurs sportifs ne sont pas assez raisonnables. Voici quelques mots du vélo actuel. En septembre dernier, les championnats du monde à Zurich ont été endeuillés par la mort d'une jeune junior suisse, Muriel Furet, un an après le décès en course de Gino Mader lors du Tour de Suisse. Et cette semaine, le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, a remis le sujet sur la table avec une volonté forte. Il faut parler à l'industrie du vélo, la musique qui fout les jetons. Et cette question, la sécurité des coureurs, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on stagne quelques mois après? Christophe Cessieux.
Je pense qu'on stagne.
Ok, on stagne. Marc Madiot.
Je vais être un peu plus optimiste, on avance.
On avance. Jérôme Pinault.
Eh ben moi, je trouve qu'on avance dans la com, on stagne dans les actes.
Mario Bartoli.
On n'avance pas très vite, donc on va plutôt stagner.
Ok, avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste vélo sur RMC, c'est Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Limiter la technologie des vélos, c'est donc la piste lancée par le patron du Tour de France.
Oui, il faut parler à l'industrie du cycle pour améliorer la sécurité dans le cyclisme. Voilà ce que martèle depuis quelques jours le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, pour améliorer la sécurité dans le peloton. Il s'agirait, selon Prudhomme, d'encadrer davantage le développement du matériel toujours plus performant, des vélos toujours plus légers, toujours plus aéros et des coureurs de moins en moins protégés donc face aux aléas de la course. Alors que certains militent pour jouer sur les pneumatiques, comme c'est le cas en F1, le patron du Tour évoque, lui, la largeur des guidons et du cintre pour jouer sur l'aéro. Il veut aussi réfléchir à des développements limités en descente qui empêcherait les coureurs d'aller trop vite. Mais donc pour cela, il faut se parler entre organisateurs, entre monde du cyclisme et fabricants de cycles. Or, lors du dernier séminaire de l'Union Cycliste Internationale, il y avait précisément une représentante de l'industrie du cycle qui disait « on ne nous parle pas ». Quoi qu'il en soit, il y a encore du chemin. Il y a quelques jours, RMC s'est rendu à la présentation de rentrée de l'équipe UAE Team Emirates de Tadej Pogacar en Espagne. Et il y avait deux stars ce jour-là, Pogacar bien sûr, et aussi son nouveau vélo aéro conçu pour une meilleure pénétration dans l'air et donc pour être plus performant. Pour l'instant, on est assez loin quand même d'une limitation à des perfs par le biais du matériel.
Merci beaucoup Arnaud Souk pour toutes ces précisions. La sécurité des coureurs, on avance ou on stagne? On se pose la question dans les grandes gueules du sport, le 32-16 évidemment. Et puis dans quelques instants, le président de la Fédération Française de Cyclisme, Michel Callot, sera notre invité. On va commencer avec une note positive alors, parce que j'ai l'impression que tu es positif. Marc, pourquoi on avance?
On avance parce que on part de très loin. Pendant quelques années, à juste titre, on a critiqué les organisateurs qui faisaient passer dans des endroits rocambolesques certaines arrivées ou certains passages de course. Aujourd'hui, il y a eu une vraie prise de conscience chez les organisateurs pour maîtriser et sécuriser les parcours, et je pense qu'ils sont arrivés pratiquement au maximum de ce que l'on peut faire. Donc le seul sujet aujourd'hui qui peut permettre de régler la situation, c'est de ralentir l'évolution de la bicyclette. Et pour ce faire, de donner aux constructeurs de cycles des règles qui font que là, ça va ralentir naturellement le vélo. Moi, cette semaine, j'étais en stage en Espagne et j'avais notre nouveau vélo de chrono. Il va 10 km/h plus vite que le précédent. Pourquoi? Parce que c'est un vélo extrêmement aéro, qui pénètre bien dans l'air et qui est fait pour aller vite.
10 km/h, c'est énorme.
Mais on va de plus en plus vite avec le matériel parce qu'il est de plus en plus aérodynamique. Alors moi, je fais toujours la comparaison avec le sport auto. Vous allez à Indianapolis ou vous allez en NASCAR, on est capable d'arrêter 40 voitures en moins de 10 secondes. Un peloton de cyclistes de 180 coureurs, il nous faut plusieurs kilomètres pour arriver à mettre tout le monde à la raison. Le problème aujourd'hui du vélo, c'est qu'il va trop vite. Mais l'outil vélo va trop vite. C'est pas que les coureurs s'entraînent pour être les meilleurs, c'est logique, c'est normal, c'est l'objectif. Mais aujourd'hui, on doit redéfinir ce qu'est un vélo de course. Et aujourd'hui, le vélo de course, il est extrêmement aérodynamique dans tous les domaines. La largeur du guidon, les fourches, l'empattement, les inclinaisons de tube, etc., etc. Et si on régule ces éléments, on va ralentir. Comme on le fait en sport automobile. En auto, quand ça va trop vite, on limite les ajouts aérodynamiques sur une Formule 1 pour qu'elle aille moins vite. On a amélioré les circuits et pour améliorer la situation et la sécurité des pilotes, on a modifié les règles de construction des voitures. On doit faire la même chose.
Moi, tu rajouterais du poids sur les vélos. Comment tu
du poids ça, mais il y a plein d'éléments. La fourche, on peut jouer sur la fourche, sur la largeur du guidon, l'aéro du guidon. On peut jouer sur les roues. Ouais. Les roues aujourd'hui, les roues vont de plus en plus vite. Elles sont de plus en plus hautes. Elles vont de plus en plus vite. On peut réguler tout ça, c'est assez facile à faire.
Le problème, Marc, c'est que l'industrie du cycle va pas vraiment être d'accord.
Mais si, elle va être d'accord. Si on lui donne des nouvelles règles, il y aura une nouvelle.
De plus en plus de vélos,
des
vélos.
Mais ils vont continuer à vendre des vélos, c'est pas le sujet. Ils vont continuer à vendre des vélos.
Si tu leur fais des vélos 10 kilos plus lourds qu'avant.
Tout le monde aura des vélos différents. On aura tous des vélos différents. On repart avec une nouvelle règle de la construction du vélo. On aura d'autres nouveaux styles de vélo, d'un nouveau look de vélo. Il se vendra peut-être même encore mieux que celui d'aujourd'hui.
Mais tu me dis qu'on avance. Moi, je veux bien qu'on avance.
Parce que pour la première fois, on pose la question du matériel. Tout le monde la posait. Okay. On la posait, mais sans la poser.
Et tu viens de recevoir aujourd'hui... un nouveau vélo, il va 10 km heure plus vite.
Oui, mais moi, je ne suis que le patron d'une équipe. Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que mes coureurs aient le meilleur vélo possible. Mais quand le directeur du Tour de France, le patron du Tour dit « ça va trop vite dans le bas des descentes, avec les motos et les voitures, on n'est plus capable de suivre les coureurs », c'est une parole qui porte plus que la mienne. Et quand il dit « il faut parler avec l'industrie du cycle », il a parfaitement raison, il est dans son rôle. C'est aussi le rôle de l'UCI que de faire cela. Et je pense que si on donne un cahier des charges pour construire des vélos qui vont moins vite en disant au constructeur, l'inclinaison de la fourche doit augmenter, l'empattement doit être plus grand, les pneus doivent être différents, les hauteurs de jantes doivent être différentes.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, Marc ? Il faut que le monde du cyclisme, sous l'influence de l'UCI, que David Lapartien convoque.
Quand je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on a des guidons de 38. Aujourd'hui, on a des guidons de 38. Dans le temps, on roulait avec du guidon de 40, la largeur du guidon.
Ok, donc c'est 38 cm ?
Là, il y en a, ils sont à 36, 38. Ils sont comme ça, ils tournent plus. Si on repasse à 40 ou 42, ben on augmente
la possibilité de tourner.
La possibilité de tourner, on élargit un peu les écarts entre les vélos, donc ça peut permettre.
Tu rentres moins bien dans le vent, mais tu peux tourner quoi.
Tu peux tourner.
Ouais.
Et il y a un autre élément aussi qu'on oublie, c'est les capteurs de puissance. Aujourd'hui, le coureur il est avec un GPS sur le vélo. Et il suit son GPS. Moi, j'ai vu des images cette année autour de Suisse. Je crois que c'était autour des Alpes. Enfin, peu importe. Le gars, il suivait son GPS et la courbe ne se refermait pas. Donc, il savait de par son GPS qu'il pouvait passer sans freiner dans le virage. Il pouvait passer sans freiner, effectivement. Sauf que le GPS n'avait pas noté qu'il y avait une bouche d'égout qui bougeait. Il y a deux coureurs qui sont passés sur la bouche d'égout, les deux se sont gaufrés. S'il n'y a pas la bouche d'égout, ils passent. Pourquoi ? Parce que le GPS leur disait que ça passait, sauf que le GPS, lui, il n'avait pas la bouche d'égout. Voilà un exemple type de situation qu'on aurait pu éviter si on avait... Moi, je ne suis pas contre le fait d'enregistrer les données des coureurs et qu'il y ait des capteurs de puissance, mais il ne faudrait pas que les coureurs puissent le voir ou le regarder pendant la compétition, c'est tout.
Jérôme Pinault.
Je rejoins Marc sur un certain nombre de points. Ce qui me gêne, moi, c'est que l'UCI a passé 10 ans à regarder la hauteur des sockets des coureurs, de la
longueur, sont pas capables de la réguler.
La longueur du casque aéro. C'est encore une fois pareil. C'est-à-dire qu'on a eu cette discussion il y a 15 jours. Ça passe par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils ont pas envie de ça. Ils ont envie que ça aille vers l'avant. Ils inventent des compétitions de e-bike. Ils veulent que ça aille plus vite. C'est plus vendeur. Les marques de cycles envoient un paquet d'oseille quand même hein, dans les fédérations internationales. Et le problème, il est là. Il sera toujours là. Marc met en danger ses coureurs dans les descentes de col. L'UCI vend regarder la vitesse de nos coureurs dans les descentes de col. Donc, on n'arrivera pas à réguler. Christian Prudhomme a envie de faire ça. Les organisateurs ont envie de le faire. Mais l'instance qui doit le faire ne le fera jamais. Moi, je travaille aujourd'hui dans un magasin à Pornic qui vend une marque de vélo qui équipe trois équipes professionnelles. deux chez les hommes, une chez les garçons.
Bon, j'ai un problème, c'est que tu fais des vélos à moteur.
Pas que. Pas que. Ces vélos-là, mes clients, moi, veulent acheter les mêmes vélos que les coureurs.
Et oui, c'est ça, ce que je dis tout à l'heure.
Mais peu importe.
Tu crois que s'ils
vont moins vite, c'est pas grave. Par contre, ils nous parlent de watts, de vitesse, de poids. Comme tout le monde. Comme dans tous les pelotons.
Tu es en train de nous dire que même le cycliste amateur qui va venir chez toi à Pornic pour choisir son vélo, bah, il veut aussi de l'aéro, quoi.
Eh ben, évidemment, il veut les mêmes coureurs que les pros.
Et Sauf que,
dans le monde, moi je te parle d'un marché national, dans le monde, et dans certains pays, les gens ont beaucoup d'argent et testent ces vélos-là sur des routes qui sont pas les nôtres, sur des parcours qui sont pas les nôtres, et ils veulent que ça aille vite, et qu'ils veulent changer de couleur de vélo tous les jours, et ces gens-là achètent ces vélos-là. Donc les marques fabriquent ces vélos.
Ça représente combien de pourcentage?
Je pense que le budget total d'achat de vélo.
Aujourd'hui, tous les super riches font du vélo. Hein.
C'est énorme. Ils veulent tous le vélo le plus léger, le plus aéro. Les grands, les
Mais
plus
c'est puissants. Aussi un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, le cyclisme devient un sport de riches.
Oui. Et donc, pour conclure avec ça, il y a une partie qu'on doit pas négliger, ce qui n'est pas le cas dans toutes les équipes, mais ce qui était le cas dans mon équipe qui a disparu, par exemple, le budget amené par la marque de vélo qui profite du travail avec les pros pour faire améliorer son vélo et les vendre, en plus de donner des vélos, ils font un certain chèque. Et c'est l'un des partenaires principaux d'un paquet d'équipes. Ces entreprises-là, quand tu vas leur dire il faut modifier les vélos parce qu'ils vont trop vite, on veut faire des vélos qui vont moins vite, ça va pas les intéresser.
Donc ce que nous dit Christian Prudhomme, c'est un vœu pieux. Parler à l'industrie.
Moi je suis pas d'accord. C'est nécessaire. C'est nécessaire.
Je pense que ça peut le faire.
Si les coureurs aussi.
On y arrive bien dans d'autres sports. En sport auto, quand ça va trop vite, on sait ralentir les voitures ou on sait aménager les circuits. On sait ralentir une voiture.
Oui, mais tu vends pas des Formule 1 après.
Tu vends peut-être pas les Formule 1, mais tu vends des éléments qui ont été développés en Formule 1 sur les voitures de série. Donc là, c'est la même chose.
Marion, sur les coureurs. C'est au coureur de s'emparer du sujet.
Quand j'écoute Valentin Madouas, par exemple, qui milite lui pour limiter les braquets, puisque chaque année, il prend une dent, je crois, de braquets quasiment. Et quand Valentin est passé pro, ils étaient en 52-11. Aujourd'hui, ils sont quasiment en 55-10. Moi, je pense qu'il y a aussi une volonté des coureurs de se dire qu'à un moment donné, il y a trop de risques pris. Quoi. On peut pas continuer à prendre autant de risques. Et là où je suis d'accord complètement avec Marc, c'est que si dans des sports, puisque finalement la vitesse fait totalement partie de la performance, bien évidemment, on est obligé aussi de réfléchir au matériel utilisé pour limiter la vitesse. Et qu'à ce moment-là, ça tout le monde part sur le même pied d'égalité en termes de matériel et ça joue vraiment à la pédale. Je vois pas comment on peut faire autrement. Il y a aussi le problème des pneumatiques, il y a le problème des jantes, il y a le problème des guidons. Mais bon, il faut réglementer pour moi sur l'équipement.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on souhaite limiter l'impact grave. Les chutes mortelles, les accidents, on pense à Gino Madère, on pense à cette jeune fille qui est morte.
Voilà.
C'est ça qu'il faut limiter. C'est pour ça qu'on doit limiter la vitesse. Parce que des chutes à l'entrée d'Arambert, parce que ça frotte de trop, il y en aura toujours. Que ça aille vite ou pas.
Oui, mais c'est... Oui, ouais. Oui, oui. On a pourtant mis une chicane à l'entrée d'Arambert.
Oui, non, mais ça, voilà. Ça fait partie des choses.
Gadget,
mais après, il y a tellement d'éléments qui ne sont pas directement liés. Est-ce que les courses sont toujours... Nos routes sont toujours aujourd'hui faites pour faire de la compétition vélo?
Ben non.
Je crois pas.
Non,
est-ce que les régions, l'État a encore les moyens d'entretenir ces routes? Faut pas oublier qu'au Pays Basque, la chute, elle est due à un mauvais entretien de la route.
C'est de la route, mais ça c'est sûr.
On n'y peut rien en faisant du vélo. Limiter la vitesse, on peut. Ne doit-on pas aussi limiter l'accès aux consignes de course et qu'à chaque moment dangereux, tout le monde dise, au lieu de freiner, allez de plus en plus vite?
C'est ce que nous disait Marc, hein, d'ailleurs. Il dit, même moi aussi, si je fais pas ça aussi, les autres directeurs sportifs, ils demandent aux coureurs de prendre des risques.
Mais si on arrête ça et qu'on dit, on met une radio course sécurité dans l'oreillette, il y a un capitaine de course, il y a des consignes. De toute façon, depuis la voiture, il se passe pas grand chose. Mais par contre, en termes de sécurité, on relie les coureurs en disant, là, il y a un danger. Peut-être que ce sont des solutions aussi. Il faut passer par un tas de choses. Et au moins essayer.
Okay. Mais imagine Jérôme, il roule à 90 km/h dans les voitures pour suivre, ils n'arrivent même pas à suivre la course.
Oui, mais alors Marion, ça c'est aussi des grandes phrases d'accord.
Non, c'est vrai.
C'est de plus en plus vite, c'est une certitude. Mais tout n'est pas dû à un élément. Je crois que il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce débat-là. Et c'est pas demain la veille qu'on va tout régler, ça, c'est sûr. La safety car, moi, je suis pour.
Voilà. Christian Prudhomme qui évoquait aussi le cas de mesures prises par la nouvelle formation de Romain Bardet qui travaille sur des maillots de course qui vont protéger réellement les coureurs en cas de chute. On sait que quand tu chutes à vélo, t'es râpé partout.
Tu fais des pizzas,
et que derrière, pour te soigner, tu mets souvent une semaine.
Oui, non, mais est-ce que ça
peut être
tissu, on peut jouer aussi parce que le tissu est aéro aujourd'hui.
Oui,
aujourd'hui, on fait des combinaisons aéro pour que ça roule plus vite d'une demi-seconde avec la combinaison aéro. Mais j'ai envie de dire, il faut essayer plusieurs éléments, plusieurs choses, et peut-être qu'on trouvera les
airbags aussi qui sont évoqués.
Ouais,
qu'en ski, à moto, c'est en train d'être testé. Tu y crois pas?
Je crois pas trop. Moi, je crois plus à une évolution du vélo, la quadrature du vélo, et les éléments constituant le vélo peuvent être modifiés assez facilement.
Kevin nous appelle au 32-16. C'est un fidèle de cette émission. Il adore parler vélo avec nous. Salut, Kevin.
Salut JC, salut les grandes gueules.
Alors est-ce qu'on stagne, bonjour, Kevin, ou on avance selon toi?
Ouais, et puis moi je suis désolé Marc et Jérôme, j'ai un petit peu du mal avec votre double discours. Vous avez fait une sortie remorquée il y a quelques temps sur le monoxyde de carbone en disant que, Marc, t'as dit que t'étais prêt à signer dans l'heure un document disant que tu t'engageais à ne pas appliquer ce protocole-là parce que le dopage, ça met en jeu la sécurité, la santé des coureurs. Et sur d'autres sujets qui sont des sujets techniques, et notamment, et je t'avais déjà interpellé sur le sujet, sur le fait que les directeurs sportifs donnent des consignes dans les oreillettes aux coureurs pour remonter absolument dans les endroits dangereux. Là, par contre, tu n'es pas capable de prendre cet engagement-là et tu attends tout finalement de l'UCI.
C'est
pourquoi
normal.
Est-ce que Marc...
Tu vas pas te mettre en marche.
Non, mais attends, tu plaisantes. Je vais quand même pas aller dire à mes coureurs, attention les gars, on entre dans une zone dangereuse, restez en queue de peloton.
Mais pourquoi?
Il faut que je change de métier si je dis ça.
Je vais aller plus loin, je vais t'expliquer. Pour moi, le fait de hurler dans son... Je ne sais pas si tu hurles, mais de dire à ses coureurs de remonter et de prendre des risques, c'est une forme de dopage pour moi. C'est une forme de dopage psychologique.
Non,
je vais aller au bout de mon argument, si tu veux bien. Le dopage, c'est d'augmenter artificiellement la performance. Il y a un phénomène qui s'appelle la peur, qui est naturel, qui est un phénomène de survie chez l'être humain et chez tous les animaux. En faisant ça, les directeurs sportifs lèvent cette inhibition à la performance de manière artificielle. Donc moi, je pense qu'il faut absolument arrêter, alors pas enlever les oreillettes, mais qu'on ait juste des consignes de sécurité qui passent dans les oreillettes, qui sont les mêmes pour tout le monde.
Oui.
Et moi, je pense qu'en tant que directeur sportif, en tant que patron d'équipe, tu peux aujourd'hui prendre cette initiative-là dans l'intérêt de la sécurité de tes coureurs, de la même manière que tu le fais sur le monoxyde de carbone.
Non, ça n'a rien à voir. Tu dis le monoxyde de carbone et les consignes en course, ça n'a rien à voir. Le monoxyde de carbone, c'est une éventuelle tricherie pour donner des capacités de performance augmentées. Quand on est en course, à partir du moment où le règlement de la course est établi tel qu'il est, et il est certainement aménageable et améliorable, à partir du moment où on est en condition course, moi, je dois demander le meilleur à mes coureurs, sinon je change de métier.
Ok, bon, on vous mettra pas d'accord sur ce sujet. Merci beaucoup, Kevin. C'était passionnant de ton côté.
Tu nous rappelles, Kevin. Mais
on s'était expliqué sur le monoxyde de carbone et j'avais aussi dit, Kevin, et en privé, hein, en échange, et je lui avais dit qu'on avait un problème avec ça aussi avec Marc parce que ça peut cacher un tas d'autres choses. Et ça, il n'avait pas cet élément-là.
Et je rappelle que notre débat sur le monoxyde de carbone a énormément fait parler, a été repris partout.
Et ça a avancé parce que
Marc,
il appartient, en a tenu compte puisqu'il a demandé à ce que ce soit interdit.
Exactement.
Et ça va être interdit normalement.
Donc maintenant, il n'y a plus qu'à demander à David Lapartien de créer une table ronde
et voilà,
avec tous les acteurs du cyclisme, organisateurs, dirigeants d'équipes,
surtout
constructeurs de cycles, pour essayer de faire avancer les choses et pour réduire la vitesse de ces vélos.
Eh bien, on va poursuivre le débat dans quelques instants avec notre invité, c'est Michel Callot, le président de la Fédération française de cyclisme, qui vient d'être réélu. On va parler de la protection des coureurs, mais aussi évidemment de son troisième mandat. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marc Madiot, Jérôme Pinault, Marion Bartoli, Christophe Cessieux. Restez bien avec nous et vous pouvez toujours composer Noël au 732-16. Nous envoyer un petit message car le grand gagnant sera tiré au sort dans quelques instants pour remporter un super cadeau dans les grandes gueules du sport. Donc vraiment, ça peut vous aussi vous arriver. Alors, nous évoquions la sécurité des coureurs. Cette semaine, il a été élu pour un troisième mandat de suite. Michel Callot reste le président de la Fédération française de cyclisme. Il est avec nous dans les grandes gueules du sport ce matin. Bonjour, président.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous connaissez évidemment nos GG ce matin. Vous avez écouté, je le sais, notre débat de 11h. Il y a Marion Bartoli, championne de tennis, Christophe Cessieux, la voix du Tour de France depuis des années sur RMC, Jérôme Pinault, évidemment ancien coureur, directeur sportif, et puis Marc Madiot, le patron de la Groupama FDJ, pour que les auditeurs comprennent bien les positions des uns et des autres. Hein, on n'est pas non plus dans le secret des dieux dans le monde du vélo. Marc, tu roulais plutôt pour l'autre candidat, Teodoro Bartuccio, pardonnez-moi, voilà, mais au moins c'est dit et c'est important de le préciser. Michel, avant de parler de votre prochain mandat, enfin du mandat qui arrive, là, le troisième pour vous, le débat sur la sécurité des coureurs, vous avez entendu Marc Madiot, vous avez aussi entendu Christian Prudhomme qui dit à un moment donné, il faut parler à l'industrie du vélo. Est-ce que ça c'est réellement possible? Est-ce que vous êtes d'accord avec les équipes françaises pour vous réunir et pour vous dire, bon voilà, il va falloir qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps?
Oui, j'ai écouté très attentivement votre débat. Je pense que ça fait ressortir de manière assez évidente que ce sujet de la sécurité, il est forcément multifactoriel. Il n'y a pas une cause unique, et ça a été dit par plusieurs interventions, il n'y a pas une cause unique qui amène à l'accidentologie. C'est ce qu'on connaît d'ailleurs très bien en sécurité routière. Il y a au moins deux facteurs évidents, c'est la vitesse et c'est l'attention. L'attention des coureurs, on voit bien qu'elle est distraite aujourd'hui de différentes manières. Il y a ce sujet des consignes, des oreillettes, mais il y a également, ça a été évoqué, ce qu'il y a sur le guidon aujourd'hui et les informations vers lesquelles le regard se porte, ce qui est quand même pas l'idéal pour piloter et surtout quand ça va vite. Et pour revenir au sujet des relations avec l'industrie, je crois que, alors bon, l'UCI est toujours égratigné dans ces cas-là, mais il faut prendre un peu de distance par rapport à ça. L'UCI travaille avec ses différentes familles, la famille des organisateurs, des coureurs cyclistes et des équipes. Ça se passe dans un conseil, notamment le conseil du cyclisme professionnel. Ça permet de trouver des points de convergence pour après aller porter le sujet, s'il le faut, dans ce que vous évoquiez, vers l'industrie. Et je crois effectivement qu'il faudra le faire de cette manière-là.
Mais est-ce que vous, président, vous avez du poids là-dedans?
J'ai le même poids que chacun des membres du Conseil du cyclisme professionnel ou l'un des 18 membres du board de l'UCI. Mais le poids, il est forcément relatif. Par contre, derrière le poids, il y a déjà comprendre comment fonctionne le système pour pouvoir essayer de le faire bouger. Et c'est pas si évident que ça. Vous voyez, par rapport à votre question, on peut se réunir en France. On peut dire en France, on va faire ci ou ça.
C'est à l'international qu'il faut se réunir.
Voilà, dans un système concurrentiel, c'est forcément à l'international. Plaider pour que l'UCI puisse avancer plus vite là-dessus, oui, ça, le cyclisme français peut le faire. Mais je crois pas. Par contre, je crois pas à ce que disait Jérôme Pinault tout à l'heure et pour la simple et bonne raison que je fais aussi partie du comité d'audit de l'UCI. Je connais les comptes de l'UCI très bien et je peux rassurer tout le monde. C'est malheureusement, parce que ça serait bien, ça permettrait peut-être de ruisseler sur les fédérations nationales, c'est malheureusement pas l'industrie du cycle qui enrichit l'UCI. C'est minime dans les comptes de l'UCI, donc ne pas penser qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Par contre, il y a une vraie difficulté parce que c'est aussi un système industriel qui est très international aujourd'hui.
Oui, mais enfin, on peut quand même rétorquer que dans le sport automobile, on y parvient et nous, en vélo, on n'y arrive pas.
Je pense, Marc, qu'on y arrivera, mais que c'est une question qui est sans doute beaucoup plus récente dans le cyclisme qu'elle ne l'a été dans le sport automobile. On voit bien, et Marc, tu le rappelais tout à l'heure, ce qu'on appelait les gains, ou ce qu'on appelle encore les gains marginaux autour de la performance, qui s'est beaucoup tourné vers le matériel, les efforts que vous avez faits, encore une fois, dans un système concurrentiel, hein, chaque équipe pour essayer d'être le meilleur possible, d'avoir le meilleur matériel, donc le matériel qui va le plus vite, bah, tout ça, c'est aussi considérablement accéléré avec la technologie. Et quand tu disais tout à l'heure que ton nouveau vélo, il va 10 km/h plus vite que l'ancien, auparavant, on a eu plein de petits gains sur les vélos, mais qui n'ont pas produit les mêmes effets aussi rapidement. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une inertie pour pouvoir s'adapter à ces sujets-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pris en compte et qu'ils ne sont pas traités. Je crois qu'ils le sont et qu'ils le seront de plus en plus vivement.
Eh ben, on espère qu'ils seront traités. Jérôme Pinault, vous voulez réagir ?
Non, mais je voulais réagir à ce que le président venait de dire. Moi, je confirme et appuie ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on monte des budgets dans les équipes professionnelles, il y a un tiers, voire un peu plus que ça, qui vient et qui provient de l'industrie du cycle en termes de sponsoring. Et quand on dépose un dossier à l'UCI pour monter une équipe, et Marc ne pourra pas me contredire, on doit laisser un dossier complet avec une garantie bancaire et des comptes séquestres. L'argent provient en grande partie aussi des partenaires, donc de l'industrie du cycle, donc l'UCI.
Mais je crois que ce que disait Michel, bien sûr, mais ce que disait Michel Callot,
c'est que ce soit très clair.
Bien sûr que l'UCI ne s'en réussit pas.
Je dis juste qu'il y a quand même un peu d'argent en compte.
Michel, vous avez donc été élu pour un troisième mandat. Alors, les deux premières élections, c'était avec des chiffres de chefs d'État africains, hein, des 97 ou 96%, je crois. La première fois, vous n'avez pas de candidat face à vous. La deuxième fois, c'est Cyril Guimard. Vous lui avez mis une pâtée. Là, ça a été un peu plus serré. Alors je voulais poser la question à Marc qui justement était dans le camp d'en face. Pourquoi t'es-tu présenté contre Michel Callot ? Qu'est-ce que trouves à redire dans la gestion de la Fédération française de cyclisme de par son président ?
Ben, moi j'ai quand même quelques problèmes avec les mandats précédents. Déjà, en termes de résultats, les résultats obtenus notamment au JO l'ont été par des gens qui évoluent dans le monde professionnel et qui n'ont pas été mis en place.
On rappelle quand même que la Fédération française de cyclisme a terminé première de toutes les nations hein, en termes de bilan de médailles.
C'est un super bilan.
Et la fédération qui a rapporté le plus de médailles à la France.
Oui, mais les athlètes étaient préparés par le monde professionnel. C'est quand même une évidence. Après, sur les dernières élections, je trouve que c'est une réélection, mais c'est pas un triomphe, cette réélection, puisque on se retrouvait avec Michel Callot, président sortant, face à Bartuccio, qui était un illustre inconnu quelques mois avant les élections, et qui a quand même réussi à attirer 45% des clubs en quelques semaines ou deux ou trois mois. Donc il y a quand même un problème de fond avec la base du cyclisme, mais bon, ça, à la limite, c'est souvent le cas à chaque réélection. Moi, ce qui me gêne le plus avec le mandat qui arrive, c'est qu'on va vers une récession sociale, notamment avec la création des comptes fédérales. Les comptes fédérales sont les DN à qui on voudrait laisser croire qu'elles vont pouvoir participer à des courses professionnelles tout en n'étant pas professionnelles. La Ligue s'est battue pendant une bonne vingtaine d'années pour mettre en place des contrats de travail, une couverture sociale pour des jeunes coureurs, notamment dans les continentales. Et la création des comptes fédérales va aller à l'encontre du développement des comptes professionnels de la Ligue aujourd'hui, et donc on ne peut pas partager la position fédérale sur le sujet.
Michel puisse répondre. Ok, donc sur cette inquiétude que tu as, Michel...
Pour moi, on va vers une récession sociale.
Ok, Michel peut répondre comme ça, Michel Callot, le président de la Fédération.
Oui, je vais quand même répondre sur les sujets précédents, notamment le résultat des Jeux Olympiques, parce que je ne sais pas s'il est venu à l'idée de quelqu'un d'un jour remettre en cause le rôle de la Fédération française de foot dans la Coupe du Monde 98, par exemple, avec des joueurs qui sont professionnels dans des clubs. Donc, à un moment donné, quand les coureurs viennent en équipe de France, la fédération joue son rôle. Et on l'a vu avec nos différents sélectionneurs, avec Marc Madiot, parce que j'avais souhaité le faire en concertation, on a fait un très mauvais choix de sélectionneur avec Guimard. On a vu la différence avec Thomas Vauclair. Si aujourd'hui Marc Madiot dit que le sélectionneur de l'équipe de France n'y est pour rien dans les résultats de l'équipe de France... Moi, je suis évidemment pas du tout d'accord avec ça.
Je ne dis pas ça.
Le sélectionneur, il vient de la fédération. Par ailleurs, dans les autres résultats...
Je ne dis pas ça, mais les coureurs qui ont participé sous les ordres du sélectionneur Thomas Vauclair ont tous été préparés et mis en condition par les équipes.
Oui, ils ont été préalablement formés par la fédération qui a fait son travail.
Oui.
Ils étaient en amateur. Et puis, il y a d'autres disciplines.
Là, il faut remonter dans le temps hein, pour certains coureurs.
Oui, mais c'est une chaîne. C'est une chaîne. Et si on se respecte pas dans cette chaîne, on peut évidemment difficilement travailler ensemble. Par ailleurs, il y a d'autres disciplines aux Jeux Olympiques. Et les athlètes ce ne sont pas que professionnels. Les athlètes sont placés aussi sous couvert des entraîneurs nationaux. Je pense au triplé du BMX, par exemple, pour donner que cet exemple-là. Donc le raccourci me semble un petit peu facile. Et je ne vois pas l'intérêt non plus de pénaliser le cyclisme français, qui a effectivement largement contribué à la performance de l'équipe de France olympique avec 3 médailles d'or. Et dans le rang obtenu par la France, cette 5e place, c'est un point très important.
Moi, je...
deuxième sujet évoqué par Marc sur l'élection. D'abord, regardez un petit peu les autres principales fédérations avec cette différence effectivement par rapport à auparavant du vote des clubs, et je veux bien qu'on en parle plus en détail, et vous verrez que pour tous les présidents sortants qui avaient une liste d'opposition, très peu ont dépassé les 60%. Moi, je suis juste à 70%, donc j'estime être pas trop mal élu. Et puis sur le dernier sujet, sur les comtés fédérales, là encore, on a un raisonnement franco-français. De partout ailleurs dans le monde, ce niveau continental est un niveau entre guillemets open. On trouve des structures amateurs ou des structures professionnelles, ou je ne sais pas comment il faut les appeler d'ailleurs, peut-être semi-professionnelles. L'UCI elle-même qui vient de produire un communiqué pour définir les équipes qui faisaient partie du cyclisme professionnel s'arrêtent aux 2 premiers niveaux. Qu'on ait un système, nous en France, à 3 niveaux, pourquoi pas, mais il ne doit pas priver des structures amateurs de pouvoir continuer leur progression, de pouvoir rester attractifs pour des jeunes coureurs qui peuvent avoir d'autres envies que de signer un contrat professionnel à 19 ans, alors qu'on commence à voir ce qui se passe 2 ans après, parce que tous ne sont pas des Pogacar ou des Evenepoel. Voilà, et je pense que ce système-là, il doit se rééquilibrer au bénéfice de double projet ou de l'acceptation de la possibilité de faire du cyclisme à son meilleur niveau sans faire son métier, qui est quelque chose de particulier et de respectable, mais de particulier.
Michel Callot est avec nous, le président de la Fédération française de cyclisme. Quelques questions, les copains. On garde Michel, évidemment, quelques instants avec nous, qui est notre invité ce matin. Oui, Christophe. Alors, et puis Jérôme aussi avait une question.
Ouais, vous parliez donc du bilan olympique. Hein, je le disais, il est loin d'être négligeable avec beaucoup de médailles. En revanche, il y a un domaine où ça n'a pas du tout marché.
C'est le plus représentatif pour moi du travail fédéral.
Voilà, et qui est quand même l'essence même du cyclisme olympique, c'est la piste. La piste française, il y a eu une médaille d'or quand même pour Benjamin Thomas, mais en revanche, l'équipe de sprint est passée complètement
issue du milieu professionnel.
L'équipe de sprint est passée complètement à côté, alors que c'était quand même la référence. Michel, fut un temps vraiment le sprint français écrasait le reste des nations. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement? Est-ce que vous allez changer des choses? Parce que là, on a l'impression que tout part à volo dans le sprint français.
Alors, deux éléments. Le premier, effectivement, et je vous remercie d'avoir apporté cette nuance-là, il y a quand même une médaille d'or sur la piste. Là encore, prenez l'ensemble. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas n'importe quelle compétition. Prenez l'ensemble des sports, regardez le nombre de sports qui n'ont pas eu de médaille du tout, et regardez le tout petit nombre qui a eu une médaille d'or. Vous verrez que déjà une médaille d'or sur piste, c'est pas si mal que ça.
Le bilan piste ne peut pas se limiter à la médaille de Benjamin Thomas. Vous êtes connaisseur comme moi. La médaille de Benjamin Thomas, elle vient d'un athlète professionnel sur une compétition olympique, certes, mais avec un coureur qui est à ce niveau-là. On attendait quand même beaucoup plus de toutes les infrastructures qui ont été mises en place autour de l'équipe France d'endurance et de vitesse, et ça a fait un flop. On va pas se cacher derrière Benjamin Thomas pour évoquer un échec.
Très bien, on laisse répondre le président.
Non, je vais vous parler du sprint, mais puisque vous revenez là-dessus avec cette idée que les coureurs professionnels ne sont pas encadrés quand ils sont en équipe de France,
ils sont préparés en amont par les équipes professionnelles.
On a compris sur ce débat, mais sur la piste alors.
Non, mais soyons quand même précis dans ce qu'on raconte. L'équipe Cofidis ne prépare jamais Benjamin Thomas sur la piste. Tous les stages de préparation sur piste, tout ce qui est fait au niveau de la piste, c'est fait avec les entraîneurs de l'équipe de France.
Oui, enfin, elle le lui permet en lui libérant du temps pour le faire. C'est qui paye Benjamin Thomas, c'est son équipe de marque.
Malheureusement, c'est trop rare. Trop peu d'équipes jouent le jeu, et on pourrait le dire sur d'autres disciplines. Pour venir maintenant sur le sprint, oui, on a une difficulté sur le sprint en ce moment, qui tient peut-être là aussi à différents facteurs. Il y a peut-être aussi des facteurs générationnels. C'est pas toujours évident dans le sport de retrouver à chaque fois des leaders emblématiques comme on a pu avoir par le passé. Et puis on a une difficulté structurelle avec sans doute une complexité dès lors qu'on a rejoint le pôle de Saint-Quentin en Yvelines, pour pouvoir regrouper tous nos moyens sur un même pôle, alors que dans le passé on fonctionnait avec deux pôles, mais là c'est la configuration liée à la création de ce vélodrome qui obligeait à ça, et on a certainement à réinventer un modèle un petit peu différent qui laisse un petit peu plus de souplesse aux athlètes tout en créant les contraintes nécessaires autour d'un pôle olympique. Alors avec Florian Rousseau dans l'équipe pour travailler sur ces sujets-là, je pense qu'on amènera des solutions dans les semaines et les mois à venir à nos coureurs pour qu'ils puissent performer au maximum de leur potentiel.
Ok, donc vous y croyez en tout cas à ce retour de la piste, hein, comme ça a été le cas ces dernières années où c'était pourvoyeur de médailles pour la France. Oui, Christophe.
Les routiers français, alors là on va pas parler des Jeux Olympiques parce qu'il y a eu ces deux médailles, dont celle de Valentin Madouas commentée par Marc, qui ce jour-là était dans un état d'extase totale. Alors, le cyclisme français, le cyclisme professionnel, comment vous jugez les résultats? Certes, il y a des victoires, mais en revanche on n'a pas de champions que Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Van Der Poel, Van Aert. Il y a du beau monde. Alaphilippe était le dernier finalement qui faisait partie de cette bande-là. Comment remédier? Comment trouver le successeur de Bernard Hinault dont on fêtera cette année le 40e anniversaire, la dernière victoire? Est-ce que vous avez espoir qu'à la fin de votre mandat ou d'ici, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine d'années, on trouve enfin un grand champion français capable de remporter le Tour, capable de remporter Paris-Roubaix et les grandes classes?
Alors l'espoir, oui, bien sûr, c'est important. Enfin, dire l'inverse serait quand même très très négatif par rapport à notre sport. Non, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un jour ou l'autre un champion d'exception qui ressorte des rangs français. Le constat, il est quand même qu'on perçoit effectivement une difficulté à un certain seuil. On voit les coureurs français globalement performant, c'était rappelé par le président de la Ligue, le nombre de victoires, je crois, cette année est record pour les coureurs français. On voit que jusqu'à un certain niveau dans le cyclisme professionnel, ça fonctionne plutôt bien. Après, quand on regarde aujourd'hui les vainqueurs des monuments ou des grands tours, on tombe quand même sur des coureurs d'exception, il faut le dire, dans un cyclisme qui est malgré tout plus internationalisé qu'il l'était il y a quelques décennies. Et à ce niveau de concurrence, ou pour revenir à ce niveau de concurrence, je pense malgré tout qu'on a à revoir un petit peu les choses des deux côtés, sans doute, du côté amateur, puisque les jeunes coureurs doivent performer de plus en plus tôt, donc il faut qu'on fasse évoluer le modèle de formation.
Il faut sauver le cyclisme amateur, déjà. Redonner envie aux gamins de faire du vélo et aller voir ce qui se passe dans les courses, dans les villages et dans les clubs, notamment dans ma région en Bretagne, parce que alerte rouge, il y a de moins en moins d'enfants qui font du vélo, moins en moins de jeunes, oui. C'est de plus en plus coûteux et il y a moins en moins de gens qui veulent s'occuper des clubs tellement c'est compliqué, oui. Et qu'il manque de moyens. Elle part de là, la base. La preuve, c'est qu'en Bretagne, chaque année, la Bretagne étant une des régions fortes du cyclisme en France, on peut pas se le cacher. Cette année, on a perdu deux DN. L'an dernier, une. Ça commence à être très inquiétant.
Réponse rapide de Michel Callot.
Oui, juste une réponse sur le cyclisme sur route. Je pense qu'il faut quand même là aussi se poser les bonnes questions. Le cyclisme sur route, pourquoi? Et on ne retrouvera pas le cyclisme sur route d'avant, mais vous avez donné les explications tout à l'heure. Aller sur la route, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour nos éducateurs de club d'emmener des enfants sur la route. C'est une zone de danger. Et il faut qu'on puisse tenir compte de l'évolution de la société autour de nous pour adapter le cyclisme sur route à ça. Par ailleurs, les coureurs pratiquent plus en amateur comme chez les professionnels le cyclisme comme il y a 30 ans. On fait beaucoup moins de courses. La densité qu'on pouvait avoir auparavant de compétition n'aurait même plus de sens par rapport à la demande. Il faut qu'on s'adapte à ça, c'est certain. Mais moi, j'ai pas du tout un regard aussi négatif que vous avez. Parce que quand vous avez des DN qui disparaissent dans certaines régions, vous en avez d'autres qui apparaissent dans d'autres régions. Et c'est la vie des clubs. Et quand on parle de sinistres dans les clubs, moi, c'est pas ce que je vois quand je vais dans des assemblées générales et que je rencontre des dirigeants de clubs. Les clubs, ils sont concentrés sur leurs projets associatifs. c'est difficile comme c'est difficile aujourd'hui dans la société en général, mais ni plus ni moins, et la vie associative, elle reste aussi qualitative qu'elle l'était auparavant. Et on voit bien aussi qu'entre les différentes disciplines, il y a des rééquilibrages qui s'opèrent parce que aujourd'hui, c'est peut-être plus sécurisant de mettre son enfant sur une piste de BMX où il n'y a pas de voiture que sur une route où on s'expose à la circulation.
Bon, et voilà, vous avez pu.
L'avantage du cyclisme, c'est qu'il est éclectique.
Bah merci beaucoup Michel Callot d'être venu dans les grandes gueules du sport ce matin, président de la Fédération française de cyclisme. Bah oui, on avait plein d'autres questions les copains, mais bon, à un moment donné, il y a le programme qui continue sur RMC. Il y a des grands gagnants à avoir aussi dans cette émission. Merci beaucoup et on vous souhaite un très bon troisième mandat, évidemment vous qui venez d'être réélu.